Vous êtes bien sur Radio France Internationale. Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Et c'est l'heure de votre journal en français facile.
Jérôme Bastion.
L'actualité de la planète ce mercredi, c'est toujours la pandémie de coronavirus avec un nombre de morts qui a doublé en une semaine. La France a passé le cap des 4000 victimes et multiplie les transferts de malades de l'Île-de-France et du Grand Est vers l'Ouest, moins touchés. Le Premier ministre dit prévoir une fin de confinement, sans la dater, mais qui devrait être progressive. L'Espagne, pays le plus touché après l'Italie en Europe, enregistre plus de 9000 décès et 100 000 contaminations, mais place ses espoirs en une légère diminution du nombre des admissions aux urgences. Et puis, conséquence de cette pandémie qui n'ignore aucune partie du monde, le tournoi de tennis de Wimbledon a été annulé au Royaume-Uni, où plusieurs autres manifestations culturelles ont également disparu des calendriers.
Le journal en français facile.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'inquiète d'une progression quasi exponentielle de la pandémie causée par le nouveau coronavirus. Le nombre des décès a plus que doublé en une semaine, a souligné son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui prévoit dans les prochains jours d'atteindre le cap des 50 000 victimes et du million de cas confirmés. On en est pour l'instant à 905 000 selon un décompte de l'AFP. La France notamment a franchi mercredi la barre des 4000 morts, 4032 exactement, avec un bond de 509 décès entre mardi et mercredi, un record. Des chiffres qui ne prennent pas en compte, rappelons-le, les décès dans les maisons de retraite, mais ce système de comptage sera révisé à partir de jeudi, ont annoncé les autorités. Et alors qu'il était interrogé ce mercredi par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'épidémie de Covid-19, Édouard Philippe a pour la première fois évoqué le futur déconfinement. Le Premier ministre juge probable qu'il ne soit pas généralisé, qu'il ne concerne pas tous les Français en même temps. On écoute Édouard Philippe.
Il est donc probable, je dis probable et j'essaie d'être précis dans mes mots, probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde. Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question du déconfinement en étudiant l'opportunité, la faisabilité d'un déconfinement qui serait régionalisé ou d'un déconfinement qui serait sujet à une politique de test, et si oui laquelle, ou un déconfinement qui serait en fonction, qui sait, de classe d'âge. Nous espérons, et là encore je suis prudent dans les mots que j'utilise, nous espérons pouvoir avancer sur le sujet et présenter des éléments d'une stratégie de déconfinement dans les jours, les semaines qui viennent, de façon à pouvoir exposer et donner une perspective à nos concitoyens.
Propos recueillis par Julien Chavanne. Déconfinement, c'est donc la sortie du confinement, autrement dit la fin de l'interdiction de sortir de son domicile. 864 morts, c'est le bilan des dernières 24 heures en Espagne, soit un total de 9053 victimes à ce jour dans ce pays qui a franchi, lui, le cap des 100 000 contaminations par le coronavirus. Des chiffres qui correspondent uniquement aux cas testés. Le pays se situe juste derrière l'Italie en nombre de victimes et ses services de soins intensifs fonctionnent toujours à plein. Mais bonne nouvelle, Juliette Gerbrand, le nombre des admissions aux urgences diminue.
C'est une petite lueur, mais elle existe. Il y a eu hier mardi environ moitié moins d'admissions aux urgences qu'une semaine plus tôt. Un autre chiffre est en baisse, celui des nouvelles contaminations. Pour autant, il faut encore s'attendre à des jours très durs jusqu'au week-end ou au début de semaine prochaine, avertit un professeur de médecine, le temps que la tendance se répercute sur les soins intensifs et la réanimation. Cela fait 5 jours que le nombre de morts quotidiens dépasse les 800 en Espagne. La province de Madrid est la plus touchée, vient ensuite la Catalogne, puis les deux Castilles et le Pays Basque. Débordée, la Catalogne a triplé ses capacités en soins intensifs et n'a plus un lit de libre. Le quotidien El País révèle une consigne donnée aux services d'urgence, limiter les efforts thérapeutiques chez les patients de plus de 80 ans en situation critique. Le confinement en vigueur depuis le 14 mars avait été renforcé en début de semaine. L'activité et les déplacements sont donc encore plus limités désormais. La baisse du nombre d'hospitalisations doit alléger la pression sur les soins intensifs et, si elle se confirme, permettre de sauver davantage de vies.
Merci Juliette Gerbrand. Le pic des contaminations paraît donc atteint selon les autorités sanitaires espagnoles. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, s'est d'ailleurs félicité du ralentissement de la propagation du virus. La deuxième étape consistera à inverser cette tendance et la troisième à éradiquer le virus, a-t-il dit. Et puis je vous parlais de l'Italie, le pays qui enregistre le plus grand nombre de décès, plus de 12 400 en un peu plus d'un mois. Le confinement commence à produire des résultats encourageants après trois semaines, mais la péninsule a encore compté 837 nouveaux morts en 24 heures et a observé une minute de silence devant toutes ses mairies en souvenir des victimes du coronavirus et en hommage aux professionnels de la santé. Le continent américain est lui aussi loin d'être épargné. Les États-Unis connaissent également une envolée du nombre de décès journaliers avec 865 morts en 24 heures et un total de 3873 décès pour plus de 188 000 cas officiellement confirmés. Le Covid-19 pourrait d'ailleurs emporter jusqu'à 240 000 personnes selon des projections de la Maison-Blanche. Le pic de l'épidémie est attendu entre 7 et 21 jours. L'Amérique latine est elle aussi gagnée avec un total à ce jour de quelque 20 000 cas. Le Pérou, par exemple, est à l'arrêt depuis trois semaines. Et pour faire face au coronavirus, le gouvernement péruvien a déclaré l'état d'urgence et imposé le confinement, là encore, à toute sa population. Résultat, l'économie est à l'arrêt. Une situation critique pour les 12 millions de travailleurs informels du pays. C'est un reportage de notre correspondante à Lima, Viloen Munoz. Boileau.
Depuis le début de l'état d'urgence, il y a trois semaines au Pérou, tout le monde est confiné chez soi. Mais certains n'ont d'autre choix que de continuer à travailler. Jesús Diaz est chauffeur de taxi dans le centre de Lima.
Je dois continuer à travailler, c'est mon gagne-pain quotidien. J'ai peur, bien sûr, pour ma santé. Mais je ne peux pas faire autrement, je dois nourrir ma famille.
Comme lui, ils sont 12 millions de travailleurs informels au Pérou à exercer dans des conditions précaires, sans contrat de travail ni protection sociale. Ils gagnent leur vie au jour le jour et touchent généralement moins que le minimum vital. Pour eux, le confinement n'est tout simplement pas viable. Jessica, mère célibataire, tenait un stand de jus de fruits à ce carrefour du nord de la capitale. Aujourd'hui, elle y vend des masques en tissu aux rares passants.
On nous a dit de rester à la maison, mais toutes mes économies se sont épuisées, donc j'ai dû trouver un moyen pour continuer à nourrir mes filles. Du coup, je vends des masques pour se protéger du virus à 50 centimes pièce. Avec ce travail, je gagne 5 euros par jour.
Pour venir en aide aux plus vulnérables pendant le confinement, le gouvernement péruvien a annoncé le versement de 100 euros à 3,5 millions de foyers. Jenny Tella tient un stand de poulet dans ce quartier populaire de Lima et n'a encore touché aucune aide.
Je n'ai reçu aucune subvention. Ici, dans le quartier, personne n'a rien reçu, alors que nous en avons tous besoin.
Et pour cause, à ce jour, aucun registre officiel ne recense ces travailleurs informels, qui représentent pourtant 70% des actifs au Pérou. Viloen Munoz-Boileau, Lima, RFI.
Et puis le prestigieux tournoi de tennis de Wimbledon sur gazon qui devait se dérouler du 29 juin au 12 juillet est annulé. Une décision inévitable et douloureuse, Éric Mamrut.
Si Roland Garros a choisi il y a deux semaines de reporter son tournoi à l'automne, Wimbledon, lui, était coincé. Trouver une autre date relevait du casse-tête. En août, il est illusoire de penser que la crise sanitaire sera passée, surtout lorsqu'il s'agit de réunir des joueurs du monde entier. Début septembre doit normalement se dérouler l'US Open à New York. Les organisateurs américains viennent d'annoncer qu'il était pour l'instant maintenu. Une semaine après, jusqu'à début octobre, se tiendront donc les internationaux de France porte d'Auteuil. Organiser Wimbledon juste après serait impossible. Et pour cause, à l'automne, le gazon anglais se révèle bien trop glissant pour qu'on y joue au tennis. L'autre option était le huis clos, aux dates initiales. Là encore, impossible à tenir, car même sans public, Wimbledon mobilise plusieurs milliers de personnes en comptant les joueurs et leur staff, les arbitres, les organisateurs et autres ramasseurs de balles. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un grand chelem, Wimbledon, est donc annulé, ce qui repousse encore la date de reprise, cette fois au 13 juillet minimum. Une bien mauvaise nouvelle pour les 100 grades du circuit, déjà privé de tout gain depuis l'arrêt du circuit début mars. Coup dur également pour Roger Federer, qui devra attendre 2021 et l'année de ses 40 ans pour espérer remporter à nouveau Wimbledon, son tournoi fétiche.
Autre annulation, le Festival d'Édimbourg, le plus grand événement mondial de spectacle vivant prévu au mois d'août. C'est en Écosse et c'est la fin de votre journal en français facile.
Oh là là, pas de nouvelles de Camille.